Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine hebdomadaire de notre web radio Micro Rebelle. Micro Rebelle, c'est la web radio du bassin minier, web radio des luttes sociales, écologiques, féministes, antiracistes, etc., etc. Et ce magazine est diffusé chaque semaine en direct sur notre web radio, sur notre site internet micro-rebelle.fr et également rediffusé par nos amis de Radio PFM chaque vendredi à 20h, chaque samedi matin à 7h30 et tous les dimanches à 14h. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer l'actualité d'une manière générale et puis vous proposer un reportage. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors dans l'actualité, l'ensemble des médias, aujourd'hui vendredi, jour de la diffusion en direct de ce micro-rebelle hebdo, l'ensemble des médias donc évoque l'agression violente, on pourrait dire hallucinante, subie par un homme noir de la part de policiers à Paris. La Voix du Nord titre ainsi sur son site « Producteur tabassé à Paris, 4 policiers en garde à vue, une nouvelle vidéo sous un autre angle ». C'est que c'est effectivement une histoire à épisodes. On va en rappeler les faits brièvement. Samedi dernier, 21 novembre, un homme noir, Michel Zecler, se fait tabasser sur son lieu de travail, il est producteur musical, pendant près de 5 minutes par des policiers qui l'ont suivi. C'est un tabassage à la tête, à coups de pied, coups de poing et coups de matraque. Avec Michel Zecler, il l'indiquera ensuite, des injures racistes ont été proférées. La scène est entièrement filmée par une caméra de vidéosurveillance. Des artistes présents dans le studio lui viennent en aide. Les policiers appellent alors les secours et lancent une grenade lacrymogène pour faire sortir Michel Zecler et les jeunes. À ce moment-là, ce sont des personnes du voisinage qui filment la scène. On y voit des policiers pointer leurs armes sur Michel Zecler pour le faire sortir du studio et l'embarquer dans une voiture. Il est ensuite placé en garde à vue pour, je cite, « violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ». Les policiers l'accusent également d'usage de stupéfiants et d'avoir tenté de subtiliser leurs armes. Toutes ces vidéos, celles de la caméra de vidéosurveillance et celles des riverains, ont été diffusées par le média Loopsider. Elles montrent à la fois la violence de cette agression policière et les mensonges contenus dans la déposition des policiers. En effet, il apparaît assez clairement que Michel Zecler n'a en rien été violent, bien au contraire, il se verra prescrire plusieurs jours d'incapacité de travail. Depuis, l'IGPN, la police des polices, est saisie. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclare que les images diffusées sont extrêmement choquantes et que les policiers pourraient être révoqués. La dernière étape dont nous avons connaissance au moment de notre direct, c'est la mise en garde à vue des policiers. Alors cette affaire, elle intervient quelques jours seulement après le démantèlement musclé d'un camp de migrants à Paris. La Voix du Nord avait alors titré « Démantèlement d'un camp de migrants à Paris, honte, enquête ouverte et IGPN saisie ». Et la suite de l'article, réunis place de la République à Paris, plusieurs centaines de migrants ont été évacués par les forces de l'ordre à Paris, alors que le ministre de l'Intérieur dénonce des images choquantes. Alors ces deux faits de violence policière, coup sur coup, mérite qu'on se pose quelques questions. Et tout d'abord, le fait que ces violences ont pu être connues grâce aux images filmées par des personnes présentes ou par une caméra de surveillance. Avec une première interrogation, combien y a-t-il de violences policières dont on n'entend jamais parler parce qu'il n'y a pas de témoins ? Et une deuxième interrogation, est-ce que la proposition de loi sur la sécurité globale, si elle était en vigueur, aurait permis que ces images soient diffusées ? Rien n'est moins sûr. Il faut dire que les polémiques autour de cette proposition de loi enflent de jour en jour. Les polémiques et les mobilisations, et notamment dans la région. C'est ainsi que dès le début de la semaine prochaine, une AG de lutte contre cette loi de sécurité globale est prévue. Extrait du texte de mobilisation, je cite « Face à la dérive technopolicière de l'État, nous ne voulons pas rester seuls. Il nous paraît urgent de faire front commun pour lutter contre cette loi autoritaire et plus largement pour la reprise de nos nombreuses libertés perdues. Vu le peu de considération du pouvoir pour nos manifestations, d'autres leviers d'action sont à penser. L'objectif de cet AG de lutte est simple, se coordonner pour coopérer et initier un mouvement large, pérenne, allant au-delà du simple retrait de la loi. Fin de citation. Aller au-delà du simple retrait de la loi, il s'agit pour ces organisations de créer un mouvement qui ne se contente pas de rester sur une position défensive. Un autre extrait. Le mouvement doit abandonner sa position de réaction à la loi. Celui-ci ne doit pas dire stop à la loi de sécurité globale, mais doit réclamer la reprise totale des libertés perdues. Le mouvement social offensif, continue ce texte, doit donc revendiquer un certain nombre de choses qui permettront de réunir les conditions nécessaires à la reprise de nos libertés perdues. Comme par exemple la dissolution des polices les plus répressives et meurtrières, la BAC, la BRAV, la CDI, de leurs syndicats qui harcèlent et menacent, de l'IGPN cultivant l'impunité générale de la police nationale. Réclamer également le port du RIO en grand format sur les uniformes, réclamer la fin des déclarations en préfecture, l'interdiction de la reconnaissance faciale à des fins de surveillance et de contrôle. Nous devons réclamer l'abolition des délits d'outrage et de groupement en vue d'eux qui ont mis trop de gens en garde à vue, parfois en prison, pour rien. Nous devons demander l'abandon de toutes les peines pour l'ensemble des personnes condamnées durant les mouvements sociaux successifs depuis la COP21. Fin de citation. Alors nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur notre antenne à Micro-OL sur les suites de cet AG de lutte. Revenons maintenant sur ces violences policières. Lors du démantèlement du camp de migrants à Paris et contre un homme noir. Des migrants, un homme noir. La question vient toute seule. La police est-elle raciste ? Question qui n'est pas nouvelle et qui s'est posée à propos des clés d'étranglement dont ont été victimes, parfois jusqu'à la mort, de jeunes noirs ou maghrébins de la part de policiers. Parler du racisme dans la police nous amène à revenir sur le rôle de la police, et plus généralement sur le rôle de l'État. Notre société est une société de classe sociale. Les classes sociales, ce sont d'un côté les très riches, la classe capitaliste, qui domine les classes populaires, pauvres ou très pauvres. C'est donc une société très inégalitaire. Et l'État, au travers de son système policier, est chargé de garantir cette domination contre les classes populaires, contre les plus pauvres. Et la police, pour y parvenir, fait usage de la violence. Et ce sont les plus pauvres qui subissent cette violence. Par exemple, les gilets jaunes. Et parmi les plus pauvres, il y a également des étrangers, des migrants, des maghrébins, des noirs. Et on a ainsi une police minée par la guerre aux pauvres et également par le racisme comme suite logique, si on peut parler ainsi, de son rôle de gardien d'un ordre social inégalitaire. On se souvient par exemple de Didier Lallemand, préfet de Paris, qui rabrouait une femme gilet jaune avec ces mots « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Et si la police est minée par la guerre aux pauvres, et également par le racisme, cela se retrouve dans les liens entre police et extrême droite. Le vote pour l'extrême droite est nettement supérieur dans la police et la gendarmerie que dans l'ensemble de la population, comme l'a écrit Libération en appui sur des sondages Cevipof cette année. Mais par ailleurs, et cette fois-ci c'est dans Mediapart, je cite, « C'est au travers d'une large panoplie de signes, insignes, symboles, slogans, etc. que des policiers, visiblement sans honte ni crainte de leur hiérarchie, affichent publiquement leur amour de la violence, du thème de la vengeance et parfois du racisme, de la mort, voire des idéologies nazies ou fascistes. » Fin de citation. Nous aurons sans doute l'occasion de développer ces points prochainement.
Web Radio indépendante de Passamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Oui, on va continuer ce micro-rebelle hebdo par un reportage effectué à Calais. Un reportage de Luc qui a passé une journée à Calais avec les migrantes et les migrants et avec les organisations de soutien à ces migrantes et migrants. C'est donc, je vous l'ai dit, un reportage de Luc.
Je suis venu en Syrie. Je suis arrivé là, ça fait un mois à peu près. Et la situation ici, ça va. Il y a beaucoup, ils m'ont aidé un peu. Des gens qui sont, ils sont pas racistes. Ils sont bien, ils sont cool, ils rigolent avec nous, on joue. Ils m'ont donné beaucoup d'aide.
Ça fait combien de temps que tu es parti de Syrie?
Ça fait 3 mois. Et je suis venu ici et il y a un mois, en Calais. C'est pas trop.
Qu'est-ce que tu espères en venant ici?
Je sais pas comprendre bien.
Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que je veux? Je veux... Quand on dit... La situation... On règle la situation de ma vie pour régler mon futur, tu sais.
Tu vas aller en Angleterre?
Ouais, normalement.
C'est ça l'objectif?
C'est ça l'objectif, ouais. Inch'Allah.
Depuis le début de l'année, au moins 6000 migrants et migrantes auraient tenté de traverser la Manche et la mer du Nord, selon la préfecture. Le 27 octobre, 7 personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais, dont 2 enfants de 5 et 8 ans. Le 11 novembre, un Érythréen est gravement blessé au visage par un tir de LBD 40. Et prochainement, Natacha Bouchard, maire de Calais, recevra la Légion d'honneur des mains de Nicolas Sarkozy. Calais est devenue une ville-prison, érigée de barbelés. On rase des kilomètres de végétation parce qu'il pourrait servir à construire des abris, à ériger des jungles. Le harcèlement policier est constant. Les évictions et les destructions des lieux de vie sont la norme. En haut lieu, plus personne ne s'en cache, on table sur le découragement des exilés. Pourtant, on sait que le nombre de personnes qui franchissent une frontière n'est pas lié à leur degré de fermeture. Qu'en d'autres termes, on ne contient pas la pression migratoire par des politiques sécuritaires. Au final, la seule lueur d'espoir, ce sont ces gens en quête d'une vie meilleure, et la solidarité qui s'organise, notamment à la Warehouse, centre névralgique de l'activisme à Calais, point de ralliement des collectifs militants et tenu par l'auberge des migrants.
Je viens d'Irak. La situation à Calais est très mauvaise. Il fait froid. Nous ne savons pas où dormir. Nous ne savons pas où aller. Nous souhaitons aller en Angleterre. Ce n'est qu'à 33 km, mais nous avons l'impression que c'est à 200 km. Nous avons des problèmes avec la police. Les criminels, ceux qui organisent le trafic des personnes, sont aussi un problème. Nous avons formé un groupe pour acheter un bateau, mais des criminels ont volé le moteur. Nous avons besoin de partir de Calais. La police est très agressive avec les réfugiés. Certains tombent malades à force de dormir dans la rue, et il y a aussi le coronavirus. La situation est un problème pour tout le monde, en France et en Europe. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des réfugiés. Moi, j'avais des problèmes dans mon pays.
Peux-tu nous donner des exemples de harcèlement policier?
La police déteste les réfugiés. S'ils voient que tu es réfugié, ils viennent te voir tout de suite. Ils ne nous parlent pas comme des êtres humains. Ils détruisent les abris que nous nous construisons et ils nous laissent sans se soucier de nous. Ils nous demandent d'aller ailleurs, mais je ne sais pas où aller.
Depuis combien de temps es-tu là?
Depuis 2 semaines.
Tu as dit que tu essayais de traverser par tes propres moyens avec un bateau?
J'essaie aussi par les containers, les camions. Partout où je peux avoir une chance de passer, je ne veux pas rester à Calais. C'est une très jolie ville, les gens sont gentils. Les associations nous donnent de la nourriture. Et je n'ai pas subi de racisme des personnes de Calais, jamais. Mais c'est la police qui reste le problème.
Qu'est-ce que tu espères trouver en Angleterre et pourquoi l'Angleterre?
Certains ont eu des demandes d'asile rejetées dans d'autres pays. On ne sait pas où aller. Nous avons des problèmes dans notre pays d'origine. Il fallait partir. Aller en Angleterre, c'est le mieux. Pourquoi ? Parce que nous pouvons plus facilement travailler, avoir de l'argent, peut-être avoir des papiers, je ne sais pas. Je tiens à ajouter que les réfugiés ne sont pas des criminels, crois-moi. Certains veulent travailler, d'autres aller à l'école. Dans mon pays, l'Irak, il n'y a plus rien. C'est fini. Si je vais en Angleterre, c'est mieux pour moi.
Peux-tu me dire pourquoi tu as quitté ton pays ?
Parce que j'avais des problèmes. J'ai été traducteur pour l'armée. J'ai dû partir en Turquie. Je suis resté à Istanbul. Je devais retourner en Irak parce que j'étais malade de l'estomac, mais je n'ai pas pu. Pour moi, c'est mieux d'aller en Angleterre.
Je suis Pierre, coordinateur d'Utopia 56 à Calais. Alors, Utopia 56 à Calais, en fait, on fait beaucoup d'orientation pour les primo, les personnes exilées qui viennent d'arriver à Calais. On favorise au maximum en fait l'accès à leurs droits, c'est-à-dire pour les adultes, les familles en fait leur proposer d'appeler le SAMU social pour eux, pour les mineurs les orienter vers la protection de l'enfance. Après, on fait aussi des accompagnements socio-médicaux, donc si les gens ont besoin d'aller voir un médecin, d'aller aux urgences. Et également, on a un téléphone d'astreinte, c'est-à-dire qu'on est joignable 24 heures sur 24. Notre numéro de téléphone circule parmi les personnes exilées. Et ils peuvent nous appeler pour tout type d'urgence. Parfois, on peut y répondre nous directement. Parfois, on les redirige voilà, vers d'autres associations ou structures.
Si je comprends bien, il y a un travail de relais. Mais est-ce que derrière, il y a les infrastructures suffisantes pour répondre à ces situations qui en plus sont difficiles, précaires, dangereuses ?
Il y a des choses qui existent, c'est vrai, des structures. Mais clairement, tous les dispositifs, en fait, ils sont sous-dimensionnés. Il n'y a pas assez de place d'hébergement, voilà, que ce soit pour tout type de public, mineurs isolés, familles... Donc on est aussi là aussi pour pointer tous les dysfonctionnements en fait de ces dispositifs. C'est-à-dire on enregistre en fait tout ce qui ne fonctionne pas et après on le fait remonter en fait via du plaidoyer, de la communication, etc. Pour essayer un petit peu de faire évoluer les choses.
Est-ce que ces diagnostics, ces rapports sont entendus ? Est-ce qu'il y a davantage de moyens, sachant que la situation dure depuis des années ? Donc est-ce qu'on constate une volonté politique d'améliorer la situation à Calais ?
Pas du tout, clairement. Actuellement, on sort un désengagement de l'État, voire même en fait une politique migratoire de plus en plus autoritaire. On constate ça surtout depuis l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Les expulsions de campements se sont accentuées. Il y a beaucoup plus d'affaires qui sont saisies, il y a beaucoup plus de violences policières. Là, il commence à faire très froid. Pour l'instant, il n'y a rien qui est ouvert en fait pour les personnes qui vivent dehors. Ils sont censés avoir un plan grand froid. Bon, on attend toujours. C'est très compliqué en ce moment. Ouais.
On sent quand même... avec Gérald Darmanin, et aussi, on va dire, une forme d'instrumentalisation des étrangers, des migrants, la question aussi de l'islam qui rentre en jeu, une instrumentalisation médiatique à des fins politiques. Donc ça, c'est quelque chose qui se constate clairement sur le terrain.
Ah ben complètement, en fait. Le racisme d'État, il n'a jamais été aussi puissant qu'actuellement, ça, on ne va pas se mentir.
Et il y a aussi... deux autres éléments d'actualité qui peuvent influer sur les conditions de vie des exilés, des réfugiés, c'est le Brexit et la crise sanitaire liée au Covid-19. Comment ça se ressent, ça, ici, sur le terrain ?
Le Brexit, en fait, pour les personnes qui tentent la traversée, ça change pas grand-chose pour eux. Après, clairement, le Brexit, en fait, et la fermeture toujours plus balèze des frontières, en fait, ça sert à faire du marketing aux passeurs, en fait, clairement. Donc c'est vraiment les gouvernements européens, notamment britanniques et français, qui font le jeu des passeurs actuellement. Parce que ça, c'est aussi, ils peuvent se permettre de dire dépêchez-vous vite de passer, en fait, parce que bientôt tout sera complètement fermé, il y a le Brexit. Puis ça se traduit par des mises en danger incroyables, il y a eu des noyades récemment.
Maintenant, il y a de plus en plus de ces personnes qui tentent la traversée par la mer. Il y a eu un naufrage récemment, est-ce que ça arrive régulièrement ? Est-ce qu'il y a une mise en danger croissante liée à clôture des frontières de plus en plus renforcée ?
Complètement, en fait. Et surtout, on sait que le nombre de personnes qui vont tenter le franchissement d'une frontière n'est pas du tout lié au degré de fermeture d'une frontière, en fait. Donc ce qu'on fait là, en jouant la sécurisation et l'autorité à l'extrême, en fait, c'est que c'est juste on crée du tragique et du spectaculaire, en fait, pour capitaliser dessus politiquement, ce qui est d'un cynisme absolu.
En septembre, il y a eu un rapport de la Défenseure des droits qui est venu à Calais et qui pointait du doigt les conditions de vie indignes des réfugiés, plus particulièrement aussi des mineurs et des femmes. qui sont d'autant plus exposés. Ce n'est pas le premier rapport de ce type-là qu'il y a. Est-ce que ça peut encore servir, ce genre de démarche ?
Ben, on espère que ça peut servir, mais pour l'instant, on a l'impression que la défenseur des droits n'est pas assez entendue. Et les assos non plus, bien sûr. Après, voilà, chaque fois qu'il y a des expulsions de campement, aucun diagnostic social est fait avant, en fait, par les services de la préfecture. Donc tout le monde est embarqué dans des bus, que ce soit mineurs isolés, femmes seules, familles, hommes seuls, sans distinction. Après, voilà, le problème, il est à la fois local et beaucoup plus global, en fait. À Calais, ce qu'on voudrait, c'est un hébergement inconditionnel pour tout le monde. Et après, en fait, en question de la frontière, en fait, il faudrait que des voies de passage sûres et légales, en fait, pour que les gens soient plus obligés de risquer leur vie comme ça, quoi. Sachant qu'on les empêchera jamais de franchir la frontière, de toute manière. Ce qu'on peut faire, c'est créer des drames.
Je suis Chloé, coordinatrice pour le projet Human Rights Observers, qui est un projet de l'Auberge des migrants. Notre activité principale, c'est d'observer, de documenter, de dénoncer les expulsions de terrain qui sont quasi quotidiennes à Calais et un peu plus irrégulières, mais au moins toutes les semaines à Grande-Synthe. Du coup, ça, c'est un peu le gros de notre activité du terrain. C'est une présence, mais c'est aussi la documentation. Du coup, on fait énormément de collectes de données sur ces expulsions pour pouvoir les contester et les dénoncer publiquement. Et en dehors de ça, on travaille aussi avec les violences policières plus largement. Du coup, on fait beaucoup de recueil de témoignages et de l'accompagnement des victimes dans les options qu'ils ont après avoir été victimes de violences, parce que malheureusement, c'est beaucoup le cas à la frontière, à Calais comme à Grande-Synthe. Et voilà, donc on fait aussi des maraudes d'informations, d'accès aux droits et l'accompagnement des personnes face à cette violence institutionnelle et l'harcèlement qui est quotidien ici.
Qu'est-ce que vous faites avec ces données ?
Alors, on publie des notes mensuelles où on collecte un peu le gros des données sur les expulsions. Donc, et ça, on les envoie aux autorités, comme aux journalistes, comme à nos partenaires associatifs. On fait des rapports aussi trimensuels, annuels. Donc ça, c'est plutôt dans le plaidoyer, dans l'analyse de ces données, pour proposer aussi d'autres solutions et en fait demander juste l'arrêt de ces expulsions. Puis en fait, on les partage avec tous ceux qui veulent, donc que ce soit chercheurs, comme journalistes, comme autre association. C'est des données qui en fait sont notre responsabilité de les partager avec ceux qui peuvent en avoir une utilité pour changer la situation.
Il y a quelques années, ce genre de projet, ce genre de dispositif, ça n'existait pas. Maintenant que ça existe, est-ce que ça permet de faire changer la situation ? Est-ce que ça évolue grâce à ce type de travail ?
C'est une question compliquée. Je pense pas vraiment qu'il y a de réponse objective. On n'a pas de... Les expulsions continuent. Donc dans ce sens-là, on pourrait dire que non. Par contre, on a vu une évolution sur la façon dans laquelle ces expulsions se déroulent. Quand on a commencé l'observation en 2017, il n'y avait pas de cadre en fait à ces expulsions. Ça se passait aussi souvent la nuit. Mais alors, ce qu'on a vu, c'est une évolution dans les sortes de protocoles que la préfecture a mis en place. On voit quelque chose de très réglementé avec un convoi très spécifique qui est programmé toutes les 48 heures. Avant, c'était toutes les 24 heures, en ce moment, c'est toutes les 48 heures, mais pour chaque lieu de vie. Donc on a vu ce genre de choses. Après, si c'est bien, si c'est mal, est-ce que c'est à cause de notre action ? Tout est en fait hyper compliqué à déterminer. Mais bon, on a vu aussi une baisse des violences dans le moment des expulsions. L'expulsion elle-même est considérée pour nous une violence d'État, une violence institutionnelle, mais les violences sur individus sont beaucoup moins fréquentes dans ces moments-là maintenant. Après, il y en a encore, mais...
Actuellement, le climat politique est très tendu. Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact, justement, sur ces expulsions, sur les violences policières ? Est-ce que vous avez constaté une différence, là, au fil de l'année 2020 ?
La zone de non-droit à la frontière, ça dure depuis 20 ans. Et du coup, c'est super difficile. Nous, on a un turnover assez grand. On a toujours l'impression que pendant qu'on est là, il y a le pire du pire qui arrive. Alors qu'en fait, c'est des degrés de violence qui fluctuent un peu, mais qui restent comme très fort et un niveau constant depuis 20 ans. Donc c'est difficile de dire sur un an. Après, ce qu'on a pu constater avec Darmanin, qui a pris la position du ministre de l'Intérieur, on a vu une recrudescence des grandes expulsions cet été. Et ça, on en a eu énormément et beaucoup de suites. Et donc ça a eu des vraies conséquences pour les personnes qui se sont vues expulsées de leur lieu de vie, qui ont ensuite été grillagées aussi. Et du coup, les gens ont été poussés plus en plus vers le centre-ville, mais aussi vers d'autres campements qui sont passés d'avoir à peu près 100 personnes à 1000 personnes dans l'espace de quelques semaines. Et ça a été vraiment un résultat de ces expulsions et grillages d'autres lieux de vie. Et tout ça pour après expulser ce grand lieu de vie d'une façon extrêmement violente le 29 septembre. Et maintenant, ce qu'on a, c'est de plus en plus de personnes en errance. Après, en termes de violence, ça a aussi des conséquences parce que c'est, comme on a dit, c'est surtout dans ces moments-là et ces personnes-là qui sont visées par les violences policières, les bavures plus individuelles. Là, en ce moment, on a une communauté qui parle de violence des CRS qui subissent sans cesse depuis quelques semaines. C'est un harcèlement continu. Et là, on est en train de recueillir beaucoup de témoignages sur des camionnettes qui coursent les gens sur la route, qui font semblant qu'ils vont les écraser. Beaucoup qui se font arrêter alors qu'ils viennent ou partent du centre-ville. Du coup, c'est quand ils sont seuls ou en petits groupes où ils se font gazer, humilier, les CRS rigolent en leur mettant du poivre dans les yeux. Ça, on a beaucoup de témoignages de ça. On a aussi des témoignages de CRS qui viennent la nuit, qui lacèrent les tentes. Et hier notamment, un grand incident où ils bloquaient l'accès justement des personnes entre un point d'eau qui est dans une zone industrielle et leur campement où l'accès a été complètement bloqué. Et quand les personnes ont essayé de comprendre pourquoi, ont essayé de faire une médiation avec eux pour leur demander qu'ils laissent passer leurs compatriotes, ils ont été gazés, dont une personne qui a reçu un projectile de cet agent chimique qui a été lancé à moins de 10 mètres directement dans le visage de la personne. Cette personne a été complètement défigurée, je l'ai vue moi-même, et elle est encore à l'hôpital en ce moment.
Est-ce que ces violences policières et s'exerce aussi contre les bénévoles et les militants présents à Calais?
Oui, on documente l'harcèlement vers les bénévoles, les intimidations. On a beaucoup moins de cas de violence en tant que telle, mais bon, l'intimidation et l'harcèlement est aussi considéré violent par beaucoup. Ça, on les documente, c'est quotidien. Les associations sont quotidiennement intimidées par les forces de l'ordre. Nous, personnellement, en tant qu'HRO, on a des problèmes en ce moment, du coup, depuis le début du confinement, où on se fait verbaliser à chaque fois qu'on va sur le terrain. Donc là, c'est vraiment un appel qu'on fait de soutien et d'aide au public, parce que ça nous empêche dans notre travail. Et beaucoup plus important, en fait, c'est en nous empêchant de faire notre travail, en nous empêchant de venir observer au moment des expulsions avec les verbalisations, ça invisibilise la violence d'État. Et pour nous, ça, c'est inacceptable. Ils utilisent le confinement comme prétexte. Mais on a aussi reçu beaucoup de remarques par rapport à la loi sur la sécurité qui est en train de passer en ce moment, par rapport au floutage des images des forces de l'ordre et tout ça. Donc on nous a aussi dit, le sous-préfet nous a dit que, dans des réunions, qu'il ne voulait pas qu'on soit là pour filmer la police. Donc il y a un sort d'amalgame. On voit que ce qui déplaît au préfet, aux forces de l'ordre, c'est qu'on soit là observer leur action et qu'ils se servent du confinement pour nous empêcher en ce moment.
Vamos, mas vamos. Vamos, mas não passa.
Nous sommes Syriens. Sur cet endroit où nous restons, il y a aussi des Soudanais et des Africains d'autres pays. Nous sommes ici pour essayer d'aller en Angleterre.
Depuis combien de temps êtes-vous ici ?
Pour moi et les personnes autour de moi, nous sommes là depuis environ 45 jours.
Peux-tu me parler de la situation des réfugiés à Calais ?
Nous pouvons dire que la situation est bonne. Les associations nous aident beaucoup. Elles nous donnent de la nourriture plusieurs fois par jour. Mais parfois, la police nous oblige à changer d'endroit. Parfois, ils nous obligent à aller à 100 ou 200 km de Calais, dans des centres où nous pouvons rester au chaud. Nous dormons le plus souvent dehors et le temps maintenant est très froid.
Est-ce qu'il y a de la violence policière ?
Non, pour dire la vérité sur la police, je suis passé par au moins 7 pays durant mon voyage. La police française est la meilleure que j'ai pu voir. Ils sont aimables, ils ne sont pas violents et ne nous blessent pas. Même s'ils nous arrêtent, ils nous retiennent 24 heures et ensuite ils nous libèrent.
Peux-tu me parler de la situation en Syrie avant que tu ne quittes ton pays ?
L'endroit où je vis en Syrie est un endroit très compliqué. Ma maison est à environ 2 km du front des combats. Nous entendons tout le temps des bombardements autour de nous. Nous entendons des tirs de mitraillettes. Mes enfants ont toujours peur. Je vis dans une zone où il y a 3 armées. L'armée kurde, l'armée syrienne officielle et l'armée de libération syrienne. Concernant les superpuissances, les Américains ont des troupes sur le terrain. L'armée turque est également là. Les forces russes sont là aussi. C'est une zone très compliquée et très dangereuse. Tu peux perdre la vie si tu es arrêté par l'un ou l'autre de ces camps présents sur le terrain. C'est vraiment dangereux. J'ai été détenu par le régime syrien pendant 8 mois. Et chaque jour de ces 8 mois, j'ai cru que j'allais perdre la vie à cause de la violence dans les prisons là-bas. Mon corps est couvert de marques de coups reçus. Ils nous battaient tous les jours, une ou deux fois par jour. C'est une situation très difficile. Dans la prison où je suis resté, 2 ou 3 personnes mouraient chaque jour. À cause de l'insalubrité, des maladies, du manque de soins, du manque de sommeil, de troubles psychologiques. Dans cette prison, un prisonnier dispose de 30 cm sur 30 cm pour rester, seulement une place pour s'asseoir ou rester debout. Et la plupart des gens mouraient parce qu'ils ne pouvaient dormir pendant 2 ou 3 jours successifs. Aucun moyen de dormir parce qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir. Nous étions exactement 86 personnes dans la pièce et tous les jours, 2 ou 3 personnes mouraient.
Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Aller en Angleterre ?
Je veux demander l'asile en Angleterre et faire venir ma famille. Ma famille est en danger aussi à cause du régime. J'étais un opposant au régime. J'ai pris part à la protestation et à la coordination des protestations en Syrie. Je suis une personne recherchée, même après être sortie de prison. Et ma famille a dû donner beaucoup d'argent au juge pour que je sois libérée. Depuis ce temps, je ne suis allée dans aucun endroit gouverné par le régime syrien. S'ils étaient capables de capturer ma famille, je pense qu'ils les tueraient tous.
Pourquoi ne pas demander l'asile en France ?
Concernant ma situation, mon seul problème est la langue. J'ai 40 ans, je ne suis pas capable d'apprendre une nouvelle langue. À part ça, je serais très heureux de demander l'asile en France. C'est un beau pays, c'est un pays où on est en sécurité. Mais si mes enfants me rejoignaient, je ne serais pas capable de les aider par exemple. S'ils reviennent de l'école et que je ne connais rien au français, je ne pourrais répondre à aucune de leurs questions concernant ce qu'ils apprendraient à l'école. En Angleterre, je pourrais le faire. Enfin, j'ai un master en interprétation. Si je vais en Angleterre, je pourrais travailler comme interprète ou comme professeur d'université. Donc les possibilités pour moi de trouver un travail sont supérieures. C'est pour ça que je veux aller en Angleterre.
Salut, moi c'est Louise, Lou Blaster. Je suis artiste calaisienne et militante.
Alors salut, moi c'est Manon. Alors mon blaze à moi c'est Manon Lamourette. Et bah pareil, alors je suis musicienne. Je viens de Calais et je fais aussi des études en sociologie. Voilà, en master.
Ouais, du coup on est solidaires. Moi si je peux parler un peu du coup de ce que je fais, bah, j'essaye d'utiliser mon art. Ce que je fais en général, et pour parler de la situation, pour, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie, et du coup j'en parle dans mes créations aussi, quoi. Mais c'est un moyen aussi de sensibiliser, de faire parler d'eux, et de ramener un peu d'attention sur ça. Et puis après, ouais, dans la vie, bah, quand on peut faire organiser quelques manifs, ou essayer d'aider un peu quand on a l'occasion, quoi.
Donc moi, je suis partie de Calais il y a maintenant 4 ans, c'est ça, ouais, 4 ans, 4 ans et demi. Voilà, quand je vivais à Calais, j'aimais dire que j'étais une voisine solidaire. Voilà, je donnais des coups de main, j'hébergeais des personnes, voilà, je faisais des machines à laver, les gens venaient prendre des douches chez moi, voilà, je me suis liée d'amitié comme ça avec quelques personnes sur Calais. Après, je suis repartie faire mes études donc à Lille. Et sur Lille, d'ailleurs, quand j'étais pendant ma licence, en fait, j'ai donné des petits cours de français à des personnes exilées qui reprenaient leurs études, en fait, qui étaient acceptées à l'université de Lille. Et je faisais partie d'un collectif qui s'appelait les étudiants de Galois et leurs amis. Donc Galois, c'était une résidence universitaire dans laquelle en fait les exilés en fait vivaient dans des conditions horribles. Il y avait des cafards. C'était un endroit vraiment insalubre. Donc nous, on essayait de les aider par rapport à ça, les faire changer de logement ou alors forcer le Crous à faire quelque chose et tout. Enfin voilà, on faisait des petites actions comme ça. Et pareil que Louise, en fait, c'est un truc qui me touche en tant que calaisienne. Donc dans la musique, pareil, j'en parle souvent aussi dans mes textes. Et voilà, quoi, c'est un moyen comme un autre de dénoncer la situation et puis de militer. Et voilà.
Puis on a besoin de l'exprimer aussi, je pense. Enfin, c'est aussi beaucoup ça. Enfin, en tout cas, moi, dans la musique, t'as des sentiments que tu sais pas comment les sortir autrement que d'exprimer ce désarroi ou la colère par rapport au grillage ou des situations. Parce que quand tu viens d'ici ou que tu fais le choix d'habiter ici, c'est quand même c'est pesant en fait quand tu ressens quelque chose pour celui qui est dehors et qui est là.
Ouais, et puis c'est aussi le fait, je pense qu'on est amoureuse de notre ville aussi, quoi. On l'aime pour plein d'autres facettes et du coup ça nous mine en fait de voir que ça part en vrille comme ça, que la politique elle est hyper répressive et que... Enfin, on dit que c'est dommage parce que du coup, ça bloque plein d'actions et plein de choses qui pourraient se faire avec ces personnes et autour de leur situation. Et du coup, c'est un peu déprimant. Donc, on essaie de faire bouger les lignes.
Parce que même culturellement, du coup, on a la double peine, c'est que en plus d'être raciste, ils aiment pas, ils ont une dent contre la culture et tout ce qui peut faire que les gens s'expriment. Et du coup, on n'a pas de lieu, par exemple, indépendant. On a peu de lieux pour se rencontrer. Et tout ça, des lieux qui sont ouverts à tous, et du coup, c'est compliqué, même culturellement, quoi. Ton identité de Calaisien, ça pose des problèmes en fait à tout le monde, quoi. Pas que aux gens qui sont sensibles et engagés, en fait. Et il y a, on va dire que c'est une ville qui est inhospitalière,
ouais.
Aussi les uns par rapport aux autres, en fait.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que d'ailleurs c'est dingue parce que bon, on en parlait l'autre fois parce que donc je fais partie d'une asso aussi donc de défense du climat sur Calais et en fait pendant la manifestation que Louise et avec les assos et tout qu'on a organisé moi j'avais vraiment envie que qu'il y ait des liens de fait entre la question climatique et la question migratoire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est très très lié, voilà, à comment on exploite les ressources à l'autre bout du monde et comment on consomme et comment ça pose des gros problèmes de ressources naturelles dans d'autres pays. Et c'est aussi pour ça que les personnes bougent aussi, quoi, le problème d'accès à l'eau, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que les gens sont très frileux, qui veulent pas mélanger les choses, pas faire d'amalgame, alors qu'en fait, il y a des ponts en fait qui se créent entre ces thématiques. Et...
Enfin, c'est cause à effet même.
C'est un lien de causalité en fait.
Comment vous avez vu se transformer la ville de Calais ?
Tellement de zones qui ont été déboisées, ils ont créé des douves autour de l'Eurotunnel, ça s'est grillagé, ils ont dépensé des millions en grilles, et en fait ça s'arrête pas, quoi. Depuis les expulsions de cet été, il y a encore plein de nouvelles zones grillagées autour de Marcel Doré, chaque bois est grillagé, plein de bois rasés, là c'est 3000 m2 l'ancien hôpital qui était rasé. D'arbres, de forêts, de biodiversité, quoi. C'est des zones un peu marécageuses. Alors, je suis d'accord, les humains ne sont pas censés vivre là-dedans, mais les raser juste pour que personne puisse se cacher, s'abriter, tendre une bâche, c'est vraiment ignoble, quoi. Et du coup, c'est toute la ville qui a son paysage est transformé pour ça. Je veux dire, quand tu prends la bretelle d'autoroute, il y a 10 ans, il y avait pas, tu voyais la mer, maintenant tu vois du grillage, un mur. Pendant longtemps, ça, je prenais ça vraiment, c'était vraiment dur à supporter. Et maintenant, je me dis, au bout d'un moment, va falloir que, voilà, on accepte qu'ils ont fait ça, quoi, et que, je sais pas comment dire, mais.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Ce qu'il y a à faire juste, c'est que ça change de politique, ça change de maire, et voilà, il n'y a que ça qui changera la donne, en fait, parce qu'on sait très bien que Bouchard, elle continuera dans cette lignée-là, quoi.
Tiens, ça changera pas. Un autre lien de écologie et migration, tu vois, genre 3000 m2 de végétation supprimée, c'est pareil, autour d'Eurotunnel, c'est plein d'arbres arrachés, c'est que nous, on accepte aussi que notre paysage, la nature, elle disparaît parce qu'il faut faire ça, non.
Ouais, puis d'ailleurs, on voit beaucoup aussi les effets de ségrégation du coup dans la ville des exilés, parce qu'en fait, finalement, même à l'époque de la jungle, ils sont vraiment c'est à l'extérieur de la ville pour qu'on les voit pas, mais en plus, c'est à côté des usines, ils se lavent dans l'eau, elle est polluée à mort, et en fait, on voit que on expulse des gens vers des endroits où ils sont encore plus en danger, toujours plus loin, on a l'impression que c'est insoluble comme problème.
Et qu'avant, pendant certaines périodes, il y avait des squats en ville, et donc les gens habitaient en ville, je veux dire, quand il y avait des squats là dans la rue juste derrière, d'autres à 5 minutes, à Galou et tout ça. C'est juste qu'en fait, il y a plus de liens entre la population, les gens qui gravitent autour, et c'est plus facile d'aider, quoi. Et là, c'est juste que, tout est de plus en plus difficile d'accès aussi pour les Calaisiens, pour la solidarité. Genre, des fois, on me contacte pour me dire, j'ai un manteau, tu crois que ça intéresserait quelqu'un? Les gens savent même pas où est-ce qu'ils peuvent donner un manteau, quoi. Alors qu'avant, il y avait des vestiaires en ville, il y avait des choses, quoi. Et qu'on accepte, c'est la ségrégation, quoi. C'est genre, on accepte que les gens soient chassés, mais du coup aussi les gens qui les aident, parce que tous les bénévoles se retrouvent aussi dans ces zones-là. Je veux dire, les gens se voient très peu, on a peu de lieux de rencontre, et les gens se connaissent pas, quoi. C'est fou, parce qu'il y a quand même beaucoup de bénévoles qui viennent et beaucoup de gens qui sont sensibles et qui pourraient être engagés, mais juste il manque un peu d'espace et que les gens se voient, quoi. Ouais.
Je suis Elia, je suis française, je suis volontaire au CFC, Calais Foot Collectif, depuis... Ça fait un mois et demi que je suis là, puis je reste 4 mois au total. Et du coup, au CFC, c'est un collectif qui s'est créé pendant le premier confinement, en mars-avril, parce que les autres associations, les autres organisations qui faisaient des distributions de nourriture, notamment RCK, ont fermé à ce moment-là. Et du coup, pour pallier à leur absence, le collectif s'est monté. Et on a vocation à faire des distributions d'eau et de nourriture sur Calais et sur Dunkerque. Voilà.
Et alors, comment ça se passe, ces distributions? Parce que on constate quand même que les petits campements sont épars, détruits régulièrement, reconstruits ici ou là, ailleurs. Comment vous vous organisez?
C'est vrai qu'on a en fait l'avantage du collectif, c'est qu'on est très flexible dans notre manière de fonctionner et du coup on peut évoluer selon l'actualité. Donc jusqu'à... Il y a eu une grosse éviction, il y avait une grosse jungle de à peu près 1000 personnes à Calais qui a été évacuée fin septembre. Et du coup jusqu'alors moi j'étais pas là, mais les personnes qui étaient là... ils faisaient, en fait on distribue de la nourriture sèche, dry food en anglais, et en fait c'est de la nourriture que les gens peuvent cuisiner eux-mêmes, et du coup vu que les gens avaient des campements, ils étaient on va dire plus sédentaires, les gens pouvaient cuisiner etc. Donc le principe c'est qu'on va dans les camps, on amène dans notre van plusieurs types d'aliments, donc des conserves, de l'huile, du riz, des patates, des oignons, des légumes si on en a assez, et ensuite les gens nous disent ce qu'ils veulent, combien ils sont à leur feu, puis nous on va à chaque feu leur distribuer la nourriture. Sauf que depuis fin septembre, du coup le rythme d'expulsion policière a beaucoup augmenté, ce qui a poussé les gens dans différents camps, beaucoup de gens sont partis, des gens sont revenus. Il y a aussi un nouveau phénomène de personnes qui sont à la rue dans le centre-ville, d'errance un peu. Du coup, on essaye d'évoluer selon les besoins. Là, par exemple, on a commencé 3 nouvelles distributions aujourd'hui dans 3 nouveaux camps où on n'avait plus accès. Toujours sur le même principe, essayer d'amener des paniers que les gens peuvent cuisiner. On travaille en coordination avec d'autres associations, notamment HRO, donc Human Rights Observers, qui du coup eux observent les évacuations policières et du coup peuvent nous tenir au courant de où sont les évacuations, où sont les nouveaux camps, etc. Du coup nous on travaille vraiment en coordination avec tous les acteurs qui peuvent nous dire où sont aussi analyser les besoins en nourriture et en eau.
Votre collectif vient compléter d'autres qui, eux, font de la nourriture chaude parce que c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Est-ce qu'il y a encore des points de distribution de nourriture fixe ?
T'as RCK qui distribue tous les midis et tous les soirs dans 2 lieux différents. T'as aussi d'autres associations. Alors, on travaille moins avec eux, c'est les associations mandatées par l'État qui font aussi des distributions de nourriture chaude, mais je ne sais pas exactement où et quand ils le font. Et oui, on est le seul acteur à Calais qui fait uniquement de la nourriture à cuisiner. Je crois qu'il y a Salam aussi qui distribue des paniers repas. En fait, du coup, oui, le but, c'était de pouvoir donner aux gens une autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent cuisiner, manger ce qu'ils veulent, comment ils veulent, avec les gens qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Et je pense que c'est aussi important que les personnes puissent avoir le maximum de liberté dans la manière de s'alimenter. On est bien d'accord dans un contexte où les gens ont très très peu de liberté sur la manière dont ils peuvent vivre.
Comment on fait pour vous organiser de manière à ce que ce soit entre guillemets équitable ?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Alors généralement, c'est le nombre de personnes par feu. Enfin, du coup, les gens se regroupent autour du feu. Souvent, c'est par communauté ou nationalité. Et aussi selon nos stocks, c'est-à-dire que il y a des aliments qui coûtent plus cher que d'autres à obtenir et du coup on essaye de rationner. Après on met vraiment un point d'honneur à servir tout le monde de la même manière parce qu'il y a toujours des personnes, des communautés qui sont plus nombreuses, qui parlent mieux anglais que d'autres, mais du coup on essaye de... Enfin vraiment on tient à ce que tout le monde puisse avoir... un accès égal à la nourriture, et je pense qu'une manière de favoriser ça, c'est du coup les distributions qu'on fait, ou ce qu'on appelle les distributions mobiles, où c'est pas les gens qui viennent à notre camion et qui font une ligne, c'est nous qui allons à chaque feu et qui du coup nous déplaçons dans les lieux de vie des personnes, et du coup ça permet aussi d'inverser un peu de diminuer en tout cas le rapport de pouvoir qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui délivre de la nourriture et quelqu'un qui du coup fait la queue pendant une heure pour attendre cette nourriture. Et je pense que le fait de se déplacer dans chaque lieu de vie, c'est aussi une manière qui permet une manière un peu plus individualisée selon les besoins et le nombre des personnes. Et c'est pas le premier dans la ligne qui a le plus à manger, puis le dernier, bah, il y en a plus. Même si des fois ça arrive, c'est malheureusement.
Vous faites des collectes ?
On est toujours preneur. Là, en ce moment, on a besoin d'argent. On a lancé une cagnotte en début de semaine dernière. On a une page Instagram et une page Facebook, donc Calais Food Collective, avec le lien de la cagnotte dans les descriptions des pages et dans les publications. On fait également des collectes de casseroles et de poêles. Ça paraît bête, mais pour que les gens puissent cuisiner, il faut qu'ils aient des ustensiles adaptés. Toutes donations sont les bienvenues, mais c'est principalement après, si vous connaissez des personnes qui sont producteurs de légumes ou qui bossent dans l'industrie agroalimentaire, c'est le bienvenu, mais c'est principalement des ressources financières dont on a besoin en ce moment.
Nous nous sommes rencontrés dans les rues de Calais. Tu venais d'Afghanistan, du Soudan, de Guinée. Nos sourires éclatants sous la pénombre du Grand Palais. Je t'offrais le chai pour tous nous réchauffer. Te faire oublier quelques instants les chaussures qu'on t'avait volées. Les blessures qui dans le fond auraient du mal à cicatriser. Je n'avais rien que cette eau que d'autres t'avaient préparée. Tu voulais partir une fois de plus d'une terre qui ne t'accueillait. Sortir de ton cauchemar que chaque jour je découvrais. Tu ne pouvais suivre ton rêve, certains t'en empêchent, et le nôtre lui aussi avec toi est en détresse. Nous le pourchassions en étant pourchassés par ce cauchemar. Est-ce que demain j'aurai un pull, un manteau, un pantalon à ta taille, un savon, un shampoing, une crème pour que tu puisses te laver? Combien de temps arriverais-tu à supporter tout cela? Alors que toi, si tu le pouvais, tu m'accueillerais comme un roi. Comme un frère, je goûterais tous tes plats, tous les vins de ta terre aujourd'hui meurtrie. En attendant, tu es là dans le froid, assoiffé et le ventre vide. Combien d'hommes aussi forts, aussi beaux que toi, doivent encore mourir pour qu'enfin, un jour, nous puissions simplement vivre.
Ce reportage a été réalisé le 12 novembre 2020 à Calais. Vous avez pu entendre des exilés, syriens et irakiens. Pierre, coordinateur à Utopia 56. Chloé, de Human Rights Observer. Louise et Manon, voisines solidaires. Et Elia, de Calais Food Collective. Ces associations ont besoin de soutien humain et financier. Retrouvez des liens utiles sur la page dédiée à ce reportage « Une journée à Calais » sur notre site micro-rebelle.fr. Merci également à Elsa pour les voix et à Oz pour la poésie.
Un reportage que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur notre site internet micro-rebelle.fr. C'est en page d'accueil, reportage de Luc à Calais. Ce micro-rebelle hebdo se termine. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute idée de reportage, pour des informations, pour des échanges. Pour nous contacter, le téléphone 03 74 71 24 87 03 74 71 24 87. N'hésitez pas à laisser un message sur notre répondeur ou par courriel contact@micro-rebelle.fr. contact@micro-rebelle.fr. Bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.